Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition vespérale, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des 10 enfants noyés dans la rivière Lulua au Kasaï central. Les victimes ont péri lors du chavirement de leur pirogue alors qu'elles revenaient du lieu où elles étaient parties chercher les chenilles. La cruauté des ADEV s'impose une nouvelle fois dans l'actualité avec la découverte macabre d'une dizaine de corps de civils froidement exécutés puis abandonnés dans une église du village Munguiko à Mambasa en Ituri. Dans ce journal, nous recevons Guylaine Nyembo, ministre national du Plan. Il nous parlera du vaste projet du gouvernement portant sur le deuxième recensement général. Ronéline Thibonera et Diamine, je vous présente cette édition du journal. Ouvrons cette session par ces drames. La disparition tragique d'une dizaine d'enfants sur les eaux de la rivière Lulua, dans le territoire de Demba, nous sommes au Kasaï central. Ces enfants revenaient d'une cueillette des chenilles lorsque leur pirogue s'est renversée, les précipitant dans la profondeur de la rivière. Ce jeudi, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver leur corps, mais face aux moyens rudimentaires déployés, la société civile locale en appelle aux autorités afin que les opérations soient renforcées. Elle plaide également pour la construction d'un pont afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Les détails avec André Katendengala Mouloumé.
Selon des témoins, le drame s'est produit dans le secteur de Chiboté, au village de Bakwamulumbankanga. Ces enfants s'étaient rendus de l'autre côté de la rivière Lulua pour ramasser des chenilles. Au moment du retour, la pirogue qui les transportait s'est renversée en pleine traversée. Des sources sur place affirment que tous les enfants ont disparu dans les eaux. Seul le pagailleur a survécu en regagnant la rive à la nage. Il a été interpellé et se trouve entre les mains de la police. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Demba, Marcel Massanka, indique qu'aucun corps n'a encore été retrouvé. Les recherches se poursuivent pour localiser les victimes et établir un bilan officiel. Il appelle les autorités à renforcer la sécurité sur cette traversée où les cas de noyades sont fréquents.
Il y a un manque d'ouvrage de franchissement. Aucun pont ni bac sécurisé. Nous recommandons au gouvernement provincial, aux partenaires, de venir en urgence doter temporairement l'embarcation sécurisée et des gilets de sauvetage.
Marcel Massanka demande également aux services compétents de tout mettre en œuvre pour retrouver les corps. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
D'un drame au Kasaï central vers un autre, nous sommes en Équateur. Plusieurs personnes sont portées disparues après les chavirements d'une embarcation survenue dans les territoires d'Ingende. Nous sommes en Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Selon le commissaire fluvial de Mbandaka, Bienveni Liloku, l'embarcation dénommée HB Iso Iso en provenance du territoire de Monkoto dans la province de la Chuapa a fait naufrage dans la nuit de lundi à mardi au niveau du village Imbonga, situé à 200 km de Mbandaka. D'après les premières informations recueillies auprès des témoins, les bateaux auraient chaviré à la suite d'un vent violent. L'embarcation a sombré, ne laissant émerger que sa toiture, a précisé le commissaire fluvial. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d'éventuels survivants et d'établir les bilans exacts de ces drames. Les autorités n'ont pas encore communiqué le nombre des passagers qui se trouvaient à bord au moment de l'accident, rapporte l'agence congolaise des presses. Des morts, on en parle encore dans ce journal, rappelant combien la vie ne tient qu'à un fil et que chaque jour portait sa peine. En Ituri, dans le territoire de Mambasa, 10 corps des civils ont été retrouvés mercredi 5 août dans l'enceinte d'une église du village Munguiko. Selon des sources locales, ces personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF. Les bilans pourraient toutefois s'alourdir car les recherches se poursuivent pour trouver d'autres personnes qui sont disparues. Précision avec Jean-Claude Lokidile.
Les 10 corps retrouvés dans un état de décomposition ont été découverts dans une église du village de Munguiko, située à une quarantaine de kilomètres de Mombasa centre, d'après plusieurs sources locales. Les victimes participaient à une veillée de prière lorsqu'elles ont été surprises par des combattants présumés des ADF dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier. Selon ces mêmes sources, le bilan demeure provisoire. Plusieurs habitants sont toujours portés disparus, tandis que d'autres seraient encore retenus par les assaillants. Les recherches se poursuivent dans les villages environnants où d'autres corps pourraient être découverts. Par ailleurs, selon des informations recueillies auprès d'acteurs de la société civile, au moins 7 hommes ont également été tués lors d'une autre attaque des ADF contre les camps Okapi le 3 août. Le même jour, les FADC engagés dans des opérations de traque contre ce groupe armé ont bombardé une position des ADF à Matumba. Ces opérations permettent à plusieurs otages de s'échapper de leurs ravisseurs, selon nos sources. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Mombasa n'a pas souhaité réagir à ces informations. Bounia, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Nous allons quitter Bounia pour nous rendre à Beni, où nous parlons des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles sont détenus les prisonniers de la prison des Kangbayi. Nous sommes au Nord Kivu. Conçu pour accueillir 250 détenus, cet établissement en héberge aujourd'hui près de 2300, soit un effectif près de 10 fois supérieur à sa capacité d'accueil. Face à cette surpopulation, de nombreux prisonniers sont contraints de dormir à même les sols, tandis que l'accès à une alimentation suffisante relève d'un véritable défi. Une situation qui aggrave davantage les conditions de détention des gens très précaires. Les détails avec Martial Papimukeba.
À Kangbayi, chaque mètre carré est occupé. Construite pour 250 détenus, la prison en compte aujourd'hui près de 2300 selon des sources pénitentiaires. Faute de place, certains passent la nuit à même les sols. Parmi les pensionnaires figurent près de 300 membres présumés des groupes armés, notamment des ADF. Mais la plupart des détenus sont des prévenus, toujours en attente des jugements, ce qui alimente la surpopulation. Les conditions de détention se détériorent également. Selon nos sources, la prison n'a reçu qu'une seule subvention de l'État en 9 mois pour assurer l'alimentation des détenus. Plusieurs décès y ont été signalés ces dernières années. Le mois dernier, une mutinerie des détenus militaires FARDC a aussi endommagé une partie des dispositifs de sécurité, notamment des caméras et des équipements de surveillance fournis par la MONUSCO. Le système est depuis hors service selon nos sources. Nous n'avons pas obtenu la réaction des autorités pénitentiaires et judiciaires. Beni, Martial Papimukeba. Radio Okapi.
La bonne nouvelle, c'est ce coup de maître signé par le FARDC à Kyubo, dans le Haut-Katanga. Comme vous le savez, ce village situé dans les territoires des Mitwaba avait récemment été la cible d'une attaque des miliciens Maïmaï qui avaient causé la mort de 10 personnes, dont 2 militaires de FARDC et plusieurs civils. En garant de l'ordre et de la sécurité, les FARDC ont, à l'issue d'une opération de traque, appréhendé 15 présumés miliciens Maïmaï, auteurs de cette incursion dans un cantonnement militaire. Une importante quantité d'armes emportées par les assaillants a été également récupérée, annoncent les autorités du Haut-Katanga. Le point avec Paulin Munanga.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a dépêché à Kyubo dans le territoire de Mitwaba le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba. Celui-ci a annoncé l'interpellation de 15 présumés Maïmaï impliqués dans l'attaque armée de Kyubo. Les FARDC ont récupéré aussi plusieurs armes dérobées par les assaillants dans les dépôts et ont rétabli l'ordre dans cette contrée du territoire de Mitwaba. Les suspects ont été transférés à Lubumbashi et ils seront présentés devant la justice afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga a rassuré la population que la situation est sous contrôle et que l'autorité de l'État a été rétablie. Il a par ailleurs invité les habitants de Kyubo à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout mouvement suspect. Jean-Jacques Kashiba annonce que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone pour traquer les assaillants. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
19h passé de 9 minutes, nous sommes en Mbujimayi. Plusieurs jeunes du Grand Kasaï et du Bandundu refusent de céder à la galère malgré l'exode urbain observé ces dernières années. En Mbujimayi, par exemple, le jeune crée même des opportunités économiques pour subvenir à leurs besoins. Kiosques de bureautique, vente des crédits, produits alimentaires ou lubrifiants. Ces initiatives montrent que tout n'est pas aussi noir dans ces provinces, souvent présentées comme traversant d'énormes difficultés. Esther Ndalafina a rencontré quelques jeunes et suivait son reportage.
En Bujimaï, l'ingéniosité des jeunes redonne des couleurs à un paysage économique longtemps marqué par le chômage et l'exode urbain. Dans plusieurs quartiers, des nouveaux kiosques poussent, tenus par des jeunes qui ont décidé de se prendre en charge. Ils proposent des services de bureautique, vendent des crédits téléphoniques, des produits alimentaires ou encore des lubrifiants. Simon-Pierre Kefa est propriétaire d'une bureautique.
À travers cette activité, nous achetons aussi la nourriture.
L'initiative locale montre que, malgré les difficultés, une nouvelle dynamique économique portée par la jeunesse est en train d'émerger. Christian Mouya s'est lancé dans le nettoyage des engins roulants depuis le début de cette année.
En mettant l'argent, je nettoie les véhicules, je nettoie les motos, même les mopettes.
Pour Bijou Binyanga, plusieurs autres activités, bien que modestes mais constantes, permettent de générer des revenus réguliers et de répondre aux besoins essentiels des CPR.
Il faut toujours créer quelque chose de petit, même vendre la braise, même vendre de l'eau.
Pour beaucoup de jeunes, il s'agit d'une manière de rester digne, de refuser la fatalité et de prouver que les provinces du Grand Kasaï et du Bandundu regorgent de potentialités. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre depuis Matadi au Congo central où nous posons maintenant nos valises. Dans cette ville, l'eau ne coule plus des robinets depuis mercredi soir en cause une panne survenue sur les réseaux électriques de la SNEL alimentant les installations de la régie des eaux, notamment les postes d'Imposo et du fleuve. Pour de nombreuses familles, cette interruption des services est difficile à vivre. L'accès à l'eau potable étant fortement perturbé. Face à cette situation, la SNEL affirme poursuivre ses efforts afin de rétablir rapidement l'alimentation électrique et permettre à la régie des eaux de reprendre normalement avec la distribution d'eau à la population. Ici à Kinshasa, environ 300 personnes déplacées d'ici de Pakadjuma, réinstallées au centre neuropsychopathologique CNPP de Kinkolé, dans la commune de Lancélé, ont reçu un important lot de vivres composé des sacs de semoule de maïs, des riz et des bidons d'huile végétale. Cette assistance remise par l'ONG Ligue de femmes et filles instruites pour le développement LIFID comprenait également des kits d'hygiène destinés aux femmes déplacées, notamment des serviettes hygiéniques, des pochettes, et du savon ainsi que des seaux. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du projet Plaidoyer et création d'alliances. Plus de détails sur cette action humanitaire avec Blaise Ndongala Mayanda.
Plus de 300 personnes déplacées ont bénéficié de cette assistance alimentaire et non alimentaire dans les sites de Kinkolé et appellent les autres organisations et personnes de bonne foi d'emboîter les pas à l'ONG LIFID. Ces dons ont apporté la joie aux bénéficiaires, comme indique l'un d'eux.
J'ai pensé peut-être qu'ils sont venus seulement faire voir, seulement après ils vont partir. Quand ils sont arrivés, ils ont promis et ils ont réalisé. Je suis très heureux.
De son côté, la coordonnatrice de l'ONG LIFID explique que cette assistance a été remise selon les degrés de vulnérabilité des déplacés. Elle promet également de construire dans les jours à venir les forages d'eau pour ces sinistrés. Régine Bombo.
Et nous avons aussi la joie de remercier notre partenaire IAF Africa de nous avoir soutenus pour penser à ces personnes vulnérables et déplacées de Pakadjuma.
La situation des déplacés de Pakadjuma, relogés dans un site provisoire à Kinkolé, reste extrêmement précaire et alarmante. Ces sinistrés font face à un manque criant d'infrastructures de base. Le site est saturé, obligeant certaines familles à dormir à la belle étoile. S'ajoute à cela une insalubrité notoire des pénuries d'eau potable, d'électricité, ainsi qu'un manque de nourriture et des prises en charge sanitaires adéquates, ce qui entraîne de nombreux cas de maladies et de décès, particulièrement chez les enfants.
Finissons avec cette partie de reportage avec le cycliste congolais Miguel Masaïsaï qui a foulé mercredi 5 août les sols de Kinshasa après plus de 6000 km parcourus à vélo depuis Goma. Cette initiative inscrite dans le cadre du projet Pedals for Peace l'a conduit jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Sur place, de nombreux fans l'attendaient avec joie et admiration. Après cet exploit sportif, de jeunes passionnés de vélo, de motards, une délégation du Conseil national de la jeunesse ainsi que les autorités de l'entente urbaine des cyclistes de Kinshasa ont répondu présent pour saluer l'homme derrière cette performance exceptionnelle. C'est un reportage de Joël Wetchi.
Après avoir quitté la commune de Maluku à 8h, Miguel Masaïsaï est arrivé au palais du peuple à 13h20, présent lors de l'accueil de ces jeunes cyclistes. Le président du conseil de la jeunesse, Claude Mbouy, salue cette initiative et appelle les jeunes ainsi que les autorités à soutenir Pédale for Peace.
C'est une grande initiative qui entre même dans la vision de la résolution 2250 des Nations Unies. C'est ainsi, j'en sollicite l'appui, l'accompagnement technique et financier. Et je demande à toute la jeunesse congolaise d'apporter le soutien à notre héros.
De son côté, le président de l'entente urbaine des cyclismes de Lukunga, Abraham Luakabwanga, s'est dit fier du parcours de ce jeune athlète. Devant le palais du peuple, Miguel Masaïsaï s'est mis à genoux pour balancer les messages de la paix.
J'avais fait une promesse à mes frères et sœurs de l'Est et une fois à Kinshasa, je porterai leur voix. C'est pourquoi devant les palais du peuple, je me mets à genoux pour demander à nos autorités, nous le peuple congolais, nous n'avons besoin que de la paix.
Notez que de Goma à Kinshasa, Miguel Masaïsaï a déjà parcouru 6500 km sur les 14 000 km prévus.
Actualité internationale.
À l'international, c'est la République démocratique du Congo qui vient d'interdire les exportations du concentré de cuivre et des concentrés de cobalt, alors qu'elle intensifie ses efforts pour forcer les traitements nationaux et conserver une plus grande valeur de ces ressources minérales selon un décret gouvernemental. Après la publication de l'information concernant cette interdiction, les cours de référence du cuivre à 3 mois sur London Metal Exchange a augmenté de 1,8% pour atteindre 14 369 dollars la tonne métrique, son plus haut niveau depuis le 29 janvier.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo, parle du dépôt physique des candidatures pour le recrutement des agents de la cartographie et censitaire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, organisé du 28 juillet au 13 août 2026, soit 42 ans après les premiers recensements nationaux. Le pays s'apprête à franchir une étape décisive dans la production des données démographiques fiables. Guylain Nyembo s'est confié à Jean-Marc Matouaki dans cet entretien exclusif accordé à Radio Capi.
Monsieur Guylain Nyembo, bonjour.
Bonjour, bonjour à vos auditeurs.
Alors, vous revenez fraîchement du Grand Équateur. Vous venez de lancer une campagne nationale de sensibilisation au deuxième recensement général de la population et de l'habitat dans le Grand Équateur. Quel est le message essentiel que vous avez transmis à la population par rapport à ce processus qui, pour rappel, intervient 42 ans après la première opération?
Nous avons commencé la grande sensibilisation. Vous l'avez peut-être suivi. Nous avons pris les encouragements et les soutiens du président de la République, en passant par les autres institutions de la République, le Parlement et d'autres forces vives de la nation, dont les confessions religieuses aussi, où nous avons démarré. Alors, il était temps maintenant de passer sur le programme des provinces. Donc là, c'était les Grands Équateurs qui étaient sollicités comme première province pour nous accueillir. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, le message essentiel, c'était bien évidemment que toutes les populations puissent être prêtes, se faire recenser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est d'accompagner les recenseurs. C'est, vous savez, c'est une opération très importante, mais aussi très délicate, parce que 42 ans après, on ne sait même pas qui a participé à ça. Donc pour nous, c'est, on prend ça comme une première expérience. Mmh. Et donc, il faut que nous puissions solliciter toutes les forces vives de la nation pour qu'ils nous accompagnent dans ce processus et faire en sorte que ça puisse se dérouler convenablement et que ça soit un succès pour notre pays, en tout cas, de relever ce défi après autant d'années.
Monsieur le ministre, il y a les défis sécuritaires dans ces processus qui se déroulent dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC, mais également au port de Kinshasa avec les phénomènes Mobondo par exemple. Comment les projets de recensement entendent-ils intégrer ces données dans son opérationnalisation?
Bon, dans ce genre de processus, on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation du pays de manière générale. Déjà pour Mobondo, faut dire qu'on a quand même évolué. Donc il y a eu un travail qui est fait au niveau du gouvernement, ce qui fait que la manière dont on a parlé hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Le grand paquet, on va dire, reste l'Est de la République, mais n'oubliez pas que le recensement, c'est une opération essentiellement locale. Donc, ce n'est pas des grands déplacements d'avions et tout ce que vous voulez. Ce sont des citoyens congolais qui sont dans leur zone d'opération, donc là où ils habitent. Ce sont des enfants, ce sont des frères et sœurs, des mêmes personnes qui vont faire ce travail-là. Mmh. Et puis, il y a plusieurs formules qui peuvent être utilisées dans le contexte sécuritaire. Mais sachez que pour nous, ce qui est important, c'est que nous comptons d'abord sur l'espoir de la paix avec le travail du président de la République et tous les gouvernements et toutes les personnes qui nous accompagnent dans cet exercice difficile. Nous voulons espérer que la paix puisse nous trouver avant qu'on puisse arriver au moins au dénombrement général l'année prochaine en juillet. Donc on a quand même encore un peu de temps. Mais si vraiment nous n'arrivons pas à réaliser dans les meilleures conditions, nous allons déployer la grande technologie d'aujourd'hui à la pointe pour avoir la même information et de manière précise dans la technologie que nous avons aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous sommes bien accompagnés en tout cas, mais nous voulons donner la chance à toutes les parties du pays de pouvoir opérer de manière classique comme dans tous les pays.
Une telle opération nécessite une mobilisation financière également. Alors, que dire sur les défis du financement? Pensez-vous disposer à ces jours des ressources financières nécessaires pour l'organisation du recensement?
Ben, c'est ça la différence pour cette fois-ci, parce qu'on ne commence pas un tel processus sans avoir bouclé le financement. C'est un peu comme si vous construisez une maison et vous n'avez pas encore vos revenus. Après, la pluie viendra ou vous allez gâcher votre argent. Donc, nous avons pris les soins avec l'accompagnement du président de la République, l'initiateur du projet, et qui nous a accompagnés dans la table ronde, qui nous a conduit à mobiliser les fonds nécessaires avec des partenaires qui nous ont accompagnés. La République a mis à la disposition de ce projet les 30 millions de dollars que vous connaissez aujourd'hui, et les partenaires sont venus pour nous appuyer, pour boucher, comme je dirais, le trou, parce que c'est en réalité, c'est un projet commun, parce qu'ils utilisent les données, ils ont besoin que la République démocratique du Congo puisse être dotée des bonnes données, et ça servira à tout le monde.
Monsieur le ministre d'État, vous avez lancé officiellement le 1er juin 2026 le recrutement des agents pour la cartographie censitaire. Quelle évaluation peut-on faire 2 mois après?
Bon, je dirais que ça se passe très bien. C'est vrai que en passant par Équateur, on voit que les gens auraient souhaité qu'on en parle davantage. Bon, nous sommes en train de monter crescendo, mais nous sommes au-delà de nos espérances. D'ailleurs, nous sommes agréablement surpris de voir que des cartographes qu'on pouvait pas imaginer, il y en a plein, même à l'intérieur du pays. Là, nous avons, je crois, 98 000 enregistrés en ligne.
Mesdames, Messieurs, c'est par là que se clôture cette édition du journal présentée par Ronéline Thibonera Idi Amin. Merci à tous de l'avoir suivi.